La fin de 33 ans de coopération avec l'abandon par le Royaume-Uni de programmes d'échange universitaire Erasmus, la fait suite à l'accord du Brexit trouvé hier. Vous l'entendrez dans un instant, cela créera des inégalités entre les étudiants, mais ce n'est pas la seule conséquence de cet accord. Pour les entreprises françaises, le texte prévoit plus de délais, plus de paperasse et plus de dépenses selon le MEDEF. Après le coronavirus, une autre épidémie frappe le sud de la France, la grippe aviaire qui contraint les autorités à abattre par sécurité 40 000 canards. Situation qui rappelle des souvenirs douloureux aux éleveurs, nous dira une représentante du secteur. Des flammes, de la fumée noire et des vitres d'immeubles soufflées à Nashville aux États-Unis après l'explosion d'une voiture. Précision de notre correspondant dans ce journal. Le climat insécuritaire en Centrafrique aura-t-il raison de l'élection présidentielle prévue dimanche? Des groupes rebelles mènent une offensive depuis une semaine. Pour en parler avec nous ce soir, Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centrafrique subsaharienne de l'IFRI, il sera l'invité de la rédaction. Étudier à Oxford, Cardiff ou Bristol le temps d'un semestre sans avoir à payer les milliers d'euros d'inscription réservés aux Britanniques, c'est bientôt fini. L'accord commercial post-Brexit trouvé hier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne prévoit le retrait britannique du programme Erasmus, programme européen d'échange pour les étudiants jugé trop cher par le Premier ministre Boris Johnson. Ils étaient chaque année 4500 jeunes français à traverser la Manche pour leurs études. Alors des échanges, il y en aura encore, mais au tarif des universités britannique. Et c'est un réel coup dur pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs, Julia Pietraszewski.
Le plus marquant, c'est surtout pour les étudiants. Bien sûr, il n'y aura pas d'arrêt brutal des échanges début 2021 avec la Grande-Bretagne, mais c'est une fin qui est tout de même annoncée pour l'été 2022. Laure Coudrello, directrice de l'agence Erasmus+ France, s'inquiète. Sans son programme, les étudiants ne seront pas tous égaux pour financer une année ou un semestre d'études en Grande-Bretagne.
Ça va être le coût des universités britanniques, vous savez, qui est très élevé. C'est très variable. Les universités ont des droits d'inscription qui sont très très différents. Ça va réduire la possibilité pour des jeunes pas forcément fortunés que d'aller faire des études au Royaume-Uni.
La fin annoncée d'Erasmus avec le Royaume-Uni marque aussi de nouvelles difficultés pour les enseignants-chercheurs, notamment pour des projets communs. Claudia Sempel, directrice de relations internationales à Burgundy School of Business, école de commerce à Dijon.
On envoyait régulièrement des professeurs sur une durée d'une semaine. Ça s'appelle donc un échange Erasmus pour les enseignants-chercheurs, pour enseigner une semaine là-bas. Ça permet, d'enseigner à l'étranger, donc d'avoir d'autres expériences en termes d'enseignement. Et c'est financé donc par Erasmus pour le déplacement du professeur. Et d'un autre côté, ça permet aussi de travailler sur son réseau à l'international pour justement avoir des contacts avec d'autres enseignants-chercheurs pour travailler ensemble sur des articles, sur des projets. Et ça ne va plus être possible parce que ça ne sera plus financé.
Les universités britanniques viennent, elles, de demander au gouvernement britannique plus d'informations sur son projet de remplacement au programme Erasmus.
Juliette Pietraszewski, ce divorce britannique effectif dans une semaine, il perturbera aussi la vie de milliers d'entreprises françaises commerçant avec le Royaume-Uni. L'essentiel est sauf, les échanges commerciaux conservés, mais le compromis va complexifier certaines procédures, ajouter de nouvelles contraintes, ce qui inquiète Bernard Spitz, président du Pôle international et Europe du MEDEF.
Tout échange commercial, ça devient de l'export et de l'import. Alors c'est vrai qu'on a échappé aux droits de douane, mais il y a quand même des formalités de douane. Il y a des formalités administratives. C'est des nouvelles données qui encadrent les transferts donc de données personnelles. C'est des contraintes. Lorsque vous mettez des produits sur le marché, il va falloir des certifications. Alors, c'est encore plus net en matière sanitaire, par exemple. Mais même pour les pièces détachées, alors, il y a beaucoup d'échanges de pièces détachées dans l'automobile, dans l'aviation. Il va falloir des certifications pour que ces pièces puissent être assemblées. C'est plus de paperasse, donc c'est plus de délais, donc c'est plus de coûts. Ça va créer, effectivement, pour tout le monde, des difficultés. Et alors, spécialement pour les entreprises qui n'ont jamais travailler en dehors de l'Union. Donc pour elle, ça devient comme un marché extérieur, il va falloir s'adapter à tout ça et c'est évidemment des complications et des coûts.
La reine d'Angleterre n'a pas soufflé un mot sur le Brexit lors de son allocution de Noël cet après-midi, droit de réserve oblige. Discours centré plutôt sur l'épidémie de coronavirus avec cette volonté affichée de rassurer les Britanniques. Même dans les nuits les plus sombres, il y a une lueur d'espoir, dit Elisabeth II. Alors que le pays enregistre l'un des pires bilans de l'Europe, 70 000 morts. Un nouveau variant du virus par ailleurs détecté. plus contagieux. Une nouvelle souche à l'origine de la fermeture, un temps, des frontières et le blocage de milliers de routiers à Douvres, port anglais. Plus de 4500 camions ont pu regagner la France. Retour à la normale estimée à demain. Une fois que tous les routiers auront passé un test Covid avec l'aide de 800 militaires britanniques dépêchés. Mesure prise donc pour éviter une propagation plus vive du coronavirus en France. 20 000 nouveaux cas enregistrés par Santé publique France en une journée. Un chiffre élevé à deux jours du lancement de la campagne de vaccination en France, mais que l'on peut expliquer par l'envolée des tests à l'heure des retrouvailles en famille pour Noël. Dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées en raison d'une infection au Covid continue de diminuer, tout comme le nombre de patients en réanimation. Le sud de la France, engagé dans une véritable course de vitesse contre la grippe aviaire, le virus circule notamment dans les Landes. Deux foyers détectés et un abattage préventif décidé pour 40 000 canards, tous les canards de la zone, qu'ils soient malades ou sains. 25 exploitations concernées, décision prise pour tenter d'empêcher la propagation de la grippe aviaire hautement contagieuse. Une situation qui n'est pas sans rappeler la crise de 2016-2017. À l'époque, les autorités avaient décidé de vider tous les élevages. On en est loin. Depuis, des leçons ont été tirées, selon Marie-Pierre P. Elle est directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras.
C'est traumatisant parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, mais nous ne sommes pas du tout dans la situation de il y a 4 ans où il y avait une crise terrible dans notre secteur. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ne serait-ce que le fait que l'on déclenche une alerte sur la base d'une suspicion. Il y a 4 ans, on ne déclenchait une alerte que sur la base d'une confirmation. Or, on sait qu'il faut 4 jours pour confirmer le diagnostic d'influenza aviaire. Et le simple fait de bloquer tous les mouvements d'animaux sur la simple base de la suspicion évite qu'il puisse y avoir une propagation malheureuse. Sur ce principe-là, on a jugulé les trois premiers cas qui ont apparu dans le berceau des Landes. Et donc, nous sommes vraiment confiants. Il n'y a pas de raison que le dispositif ne fonctionne pas désormais, même si nous sommes passés dans une étape supérieure du fait de la forte concentration de ces 2 derniers cas en zone de Chalosse.
Marie-Pierre P, directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras au micro d'Agathe Mahué. Certains éleveurs ne comprennent pas cet abattage systématique, déjà durement frappé par la crise économique liée au coronavirus. 2 syndicats agricoles appellent à une manifestation demain à Mont-de-Marsan. Image impressionnante aux États-Unis de la fumée noire et une déflagration ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde après l'explosion d'un camping-car à Nashville dans le sud-est du pays. Le véhicule avait été repéré par les forces de l'ordre, ce qui a permis l'évacuation des habitants des immeubles les plus proches. Une explosion qui a fait plusieurs blessés, Loïc Loury.
3 blessés a priori sans gravité et une portion de cette avenue dévastée. C'est le bilan de cette déflagration qui a retenti ce matin vers 6h30 dans le centre de Nashville, Tennessee. Une explosion intentionnelle, surtout estiment les autorités locales qui ne donnent pas beaucoup plus de précisions. Les démineurs, à vrai dire, étaient en route après un appel signalant un véhicule suspect, mais l'explosion s'est produite avant qu'ils n'arrivent sur place. Les images, en tout cas, sont impressionnantes. Les bâtiments adjacents ont été noircis, les vitres souffler, les arbres couchés. C'est un véhicule donc qui a explosé, toute la zone a été bouclée, des immeubles ont été évacués et plusieurs agences locales et fédérales dont le FBI sont désormais mobilisées. Un événement de plus a touché Nashville en 2020, c'est désolé le maire de la ville. Il se félicite toutefois que l'explosion se soit produite dans une zone peu densément peuplée.
La Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump a été mis au courant de la situation. Le président sortant qui menace de bloquer le plan de relance de l'économie américaine. Adoptée par le Congrès. Le texte prévoit des chèques de $600 pour les familles les plus précaires. Donald Trump exige plus, mais la mesure bloquée par les Républicains. Mais si le plan n'est pas signé d'ici lundi soir, les administrations seraient contraintes de fermer, car le budget du gouvernement est lié justement à ce plan de relance. Dernier jour de campagne aujourd'hui en Centrafrique sur fond d'incertitude et de tension. Alors que le pays peine à sortir du conflit politico-militaire de 2013, la situation semblait intense, stabilisée avec la signature l'an dernier d'un accord entre des groupes armés et le gouvernement. Mais c'était sans compter la perspective d'élections générales servant de détonateur à cette situation explosive. Pour en parler avec nous, Thierry Vircoulou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À deux jours des élections présidentielles et législatives, l'insécurité reste importante en Centrafrique. La coalition de groupes armés a rompu aujourd'hui son cessez-le-feu unilatéral de trois jours. Progression des rebelles vers la capitale et reprise des combats à 800 km au nord de Bangui. D'abord, qui sont ces groupes rebelles en présence ?
Ce sont les groupes armés qui existent depuis maintenant plusieurs années, qui contrôlent la majorité du territoire national et qui ont été coalisés un peu par l'ancien président François Bozizé, mais qui sont très divers, ont des intérêts variés, puisqu'il y a à la fois des anti-Balaka et puis ce qu'on appelait la Seleka en 2013, donc des ennemis à une époque, mais qui sont maintenant alliés. Et donc on peut dire qu'on a vraiment un groupe assez hétéroclite de groupes armés centrafricains.
L'année dernière, des groupes armés signaient l'accord de Khartoum qui stipulait qu'ils participeraient à un gouvernement inclusif, mais beaucoup de candidatures de leurs membres ont été invalidées par la Cour constitutionnelle, celle-là même qui a invalidé la candidature de l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013, s'appuyant sur le mandat d'arrêt international qui pèse sur lui. Faut-il voir un lien entre ces deux décisions ?
Il faut en effet voir un lien, mais surtout ce que ça dit, c'est que l'accord dont vous parlez était un jeu de dupes, grosso modo. L'accord de Khartoum était extrêmement déséquilibré et donnait beaucoup de pouvoir aux groupes armés, faisait beaucoup de concessions aux groupes armés, premièrement, et deuxièmement, leur participation au gouvernement était tout à fait cosmétique. Pendant ces cinq ans maintenant, puisque la dernière élection remonte à cinq ans, ça a été le règne de l'impunité, c'est-à-dire qu'aucun leader de ces groupes armés, et même pas le président Bozizé, qui pendant un an a résidé à Bangui librement alors qu'il y avait un mandat d'arrêt émis par la justice centrafricaine contre lui. Donc aucun de ces leaders de groupes armés n'a été inquiété ni par les autorités nationales ni par les casques bleus.
Mais qu'est-il reproché concrètement à l'ancien président Bozizé ?
Il lui est reproché son passé, tout simplement, c'est-à-dire d'être un professionnel du putsch, puisqu'il en a organisé plusieurs tout au long de sa carrière, et surtout de s'être allié, d'avoir créé ou de s'être accoquiné avec les groupes armés appelés anti-Balaka lors du conflit en 2014.
Et aujourd'hui, dans le contexte sécuritaire de la Centrafrique, l'élection prévue dimanche peut-elle se tenir ou se dirige-t-on vers un report ?
Non, alors l'élection peut-être se tenir, mais si elle se tient, elle ne satisfera aucun des standards internationaux pour les élections. Il y a à la fois une situation sécuritaire très dégradée dans plusieurs provinces du pays. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a de nouveau une offensive en cours. Il y a cette situation sécuritaire rend très difficile le déploiement de la logistique électorale, puisque c'est un pays qui n'a pas de route. Et puis, il y a un obstacle juridique maintenant avec le retrait d'un des candidats à la présidentielle, Jean-Serge Bokassa. Le code électoral stipule que s'il y a un retrait d'un des candidats avant l'élection, il faut reporter cette élection. Donc, ça fait des obstacles sécuritaires, logistiques et également juridiques à ce que se tienne cette élection. Et donc, si elle se tient, premièrement, ça ne sera pas une élection au suffrage universel parce qu'il y aura beaucoup d'endroits en Centrafrique où les gens ne pourront pas voter. Et puis, donc, ça ne sera pas une élection véritable. Elle risque de mettre de l'huile sur le feu plutôt que d'améliorer les choses.
Alors Thierry Vircoulon, le président français Emmanuel Macron a porté son soutien à son homologue centrafricain. Des avions de chasse français ont ensuite effectué une mission de survol à la demande du gouvernement centrafricain. Comment expliquer cette mission de survol ?
Écoutez, je n'ai pas vraiment d'explication, sauf que du côté des internationaux et de ceux qui appuient le processus électoral, dont sans doute la France, on voit qu'ils sont pris un peu dans le piège centrafricain, dans la mesure où il semble appuyer une élection non démocratique. Et donc c'est tout le paradoxe de la chose, c'est-à-dire qu'il ne cesse de dire que Faire une élection, c'est faire la démocratie. Or, faire une élection telle qu'elle se présente actuellement, c'est au contraire ne pas faire la démocratie.
Merci Thierry Vircoulon d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France Culture. Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et votre interview sera disponible d'ici quelques minutes sur notre site franceculture.fr. Au moins 26 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau sur le lac Albert qui marque la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Plus de 50 personnes se trouvaient à bord. 21 ont pu être secourues par la police maritime régionale en charge du lac Albert. La météo de demain en France, elle sera grise et froide. Quelques nuages évolueront du Grand Est aux Pyrénées. Des averses orageuses et neigeuses sont aussi attendues en Corse, dès 700 mètres d'altitude. La tempête baptisée Bella balayera la Manche ce week-end avec des rafales jusqu'à 120 km/h. La préfecture appelle donc à la prudence. Côté température, au réveil, les minimales seront comprises entre moins 2 et plus 2 degrés. Les maximales de 2 à 13 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia et Jordan Fuentes à la technique.